Bonsoir Claudie Gallet, bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes ravis de vous accueillir à la librairie Mola, où vous étiez déjà venu en 2013, mais c'était avant que cette salle Ozone n'existe. Et c'était pour L'amour est une île, si je ne m'abuse.
Oui. Vous sentez le oui.
Alors, nous voici maintenant devant votre nouveau roman, La beauté des jours. On peut compter déjà une douzaine de romans dans votre œuvre, donc vous êtes déjà bien connu et vous avez vos fidèles lecteurs et lectrices. Je ne sais pas s'il y a encore besoin de vous présenter, mais néanmoins, c'est l'artifice de l'exercice. Et donc, j'y sacrifie rapidement. Donc, en fait, on n'a pas grand-chose sur votre vie privée. Vous protégez, je crois, assez bien. Vous avez d'abord écrit pour la jeunesse. Et d'ailleurs, vous avez aussi choisi le métier d'enseigner aux enfants, au moins à temps partiel. Et vous êtes aussi originaire du Dauphiné, entre Lyon et Grenoble. Et si je ne m'abuse, vous habitez toujours à Avignon.
Oui, dans la campagne, à une quarantaine de kilomètres au nord, oui.
Voilà, ce qui ne vous empêche pas de nous faire découvrir des endroits très divers d'un roman à l'autre. Évidemment, on pense aux Déferlantes qui étaient situées dans le Cotentin et qui nous donnaient un grand coup d'embrun et d'écume dans la tête, en tout cas, et dans l'imagination. Et puis, il y a évidemment des romans sur la montagne. On pense notamment à Une part de ciel qui... justement, après les Déferlantes, nous ramenait, enfin après L'amour est une île aussi qui se passait en Avignon, dans la grosse chaleur de 2003, dans la canicule de 2003. Et le suivant, donc, Une part de ciel, était situé, lui, dans la neige pratiquement, dans la montagne et dans la neige. Et vous-même, vous êtes originaire donc de cette région montagneuse et plutôt froide. Enfin, vous avez cette expérience de la neige et du froid. Et dans ce roman, donc La beauté des jours, il est question donc de l'héroïne du personnage principal qui s'appelle Jeanne et qui est originaire, elle aussi, d'une ferme dans les Hauts, en somme, enfin au-dessus de Lyon en tout cas. Et je me suis dit qu'il y avait peut-être certaines parentés de territoire, de géographie avec Jeanne, entre vous et Jeanne.
Ah, ça c'est la question de savoir ce qu'il y a de moi en elle ou dans les personnages et dans les livres. Oui, mais c'est très compliqué de se détacher, pour moi en tout cas, de l'endroit d'où je suis née, de ces racines-là. Donc c'est vrai que cette géographie rurale, campagnarde, ces familles de taiseux, c'est quelque chose que je connais bien. Donc oui, là, je m'en suis servie. Jeanne s'est glissée finalement, c'est très poreux. Oui. Les personnages de romans et l'écrivain, je pense que c'est quelque chose quand même qui...
Oui,
il y a des passerelles, forcément.
Forcément,
oui.
Et en même temps, bien sûr... Le personnage n'est pas vous. Et quand vous le faites parler, notamment très souvent sans guillemets, ou, on connaît le discours indirect libre de Flaubert, mais là c'est encore plus libre, je dirais, et encore plus indirect. On a l'impression d'entendre la voix de Jeanne, mais ce n'est pas vous. Hein, il y a des phrases que Jeanne pense, dit, et en tout cas il y a une incertitude, ce ne sont pas forcément vos pensées.
Non, mais et puis il faut surtout pas chercher l'auteur. Non, il faut pas chercher l'auteur quand on lit, sinon on s'encombre.
J'en suis juste à la présentation.
Oui, pardon, je vous laisse.
Non, c'est pas du tout pour vous réfréner, c'est simplement pour dire que là je n'entre pas encore dans l'écriture, mais simplement on peut saisir des petites bribes, mais sans aller plus loin et sans d'ailleurs vouloir vous découvrir absolument. C'est simplement qu'il y a peut-être effectivement des échos d'une personne qui s'appelle Claudie Gallet et qui est écrivain et qui nous intéresse évidemment en tant qu'écrivain, mais qui s'enracine et dont on peut peut-être suivre certaines racines, du coup, dans certains personnages. Mais si on prend Seule Venise, que j'aime beaucoup, qui était votre troisième grand roman, il n'est pas du tout question, évidemment, de votre ancrage familial, territorial, terrien, rural. Et on est plutôt ailleurs, on est vraiment ailleurs.
Et pourtant, je dirais que dans Seule Venise, le personnage, la narratrice de Seule Venise, je me sens peut-être plus proche d'elle finalement que de Jeanne.
Et elle dit je tout du long d'ailleurs.
Oui. Là, elle vraiment. Bon, j'ai énormément connu Venise. Ce roman, pour ceux qui l'ont lu, pendant des années, je suis allée à Venise dans un vieux palais qui s'appelait le Palais Bragadine, dans le Castello. Et c'était un vieux. Alors, quand on parle de palais vénitien, on imagine des dorures, des choses très belles et tout. Ça, non, c'était un vieux palais délabré. Et que j'aimais énormément. Et il était tenu par un couple de Français. Ils avaient 3 chambres qu'ils louaient comme ça à qui voulait, des chambres d'hôtes. Et donc j'allais pendant plus de 8 ans. Je suis allée toujours dans la même chambre chez Caroline et Gérard. Et un jour, je suis arrivée là-bas. C'est pour vous expliquer comment naît un livre. Je suis arrivée là-bas et Caroline m'a dit que c'était terminé. Ce beau palais que j'aimais tant ne pouvait plus être loué. Ils allaient être obligés de le laisser, ils n'étaient pas les propriétaires, donc le propriétaire avait décidé de le vendre. Et donc il laissait, je ne pourrais plus revenir dans cet endroit. Et je me suis trouvée très triste à savoir que cet endroit, ce palais que je connaissais intimement, il était vieillot, les tapisseries se décollaient, il y avait de la moisissure en bas, la salle de bal avait perdu son lustre, enfin tout ça, il y avait des fils qui pendaient dans la salle de bain, enfin tout, c'était un endroit très compliqué que j'aimais beaucoup, donc j'ai fait des photos, énormément de photos de cet endroit. Et de retour en France, je me suis rendu compte que les photos ne suffisaient pas, et j'ai écrit Seule Venise pour garder la mémoire. L'écriture, c'est de la mémoire. Pour garder la mémoire de ce lieu que j'aimais tant et qui aujourd'hui alors a été complètement modernisé. Alors il n'y a plus rien qui pend, tout tient bien, tout ferme bien, tout est impeccable. Mais voilà, il n'y a plus cette âme-là. L'âme du Palais Bragadine, il est là-dedans. Et j'ai des lecteurs qui ont lu ce livre et qui continuent à lire. C'est un livre que vraiment les gens ont... ceux qui me suivent, voilà, continuent à le lire alors qu'il a été publié déjà il y a quelques années. Et ils vont à Venise et ils retrouvent les traces dans Venise, enfin la déambulation de cette narratrice. Et voilà, c'est comment naît un livre. Je sais pas pour. Oui, je me suis débordée, mais comment ça arrive un livre? Parfois
tout
c'est
est tressé,
ça.
C'est normal. Tout est tressé. Tout va être tressé aussi dans notre conversation. Mais justement, j'ai envie de dire justement maintenant. Tant pis, c'est trop tôt peut-être. Mais cette nostalgie que vous avez éprouvée lorsque vous avez compris que plus jamais vous n'iriez dans ce palais, elle aurait pu donner un livre de regrets, un livre. Comment dire, triste, et c'est le contraire. Et chaque fois, finalement, c'est ce que nous disions tout à l'heure, sur chaque thème, même s'il s'agit du deuil, de la perte, on obtient un livre lumineux et qui n'est pas du tout sur la nostalgie, mais plutôt au contraire, justement, sur la préservation par l'écriture, peut-être, ou l'acceptation du réel et puis des autres possibles qui se sont ouverts à un moment, qui se sont refermés, mais il n'y a pas le regret. Dans vos livres, et c'est aussi ce qui nous les rend vraiment attachants.
Non, pas de regret, pas de nostalgie. La nostalgie, c'est peut-être le lecteur qui va, lui, en trouver ou en mettre par rapport à sa propre histoire. Pour moi, il n'y a pas du tout de nostalgie, c'est simplement laisser trace, c'est la mémoire. C'est écrire pour ne pas perdre, écrire pour ralentir le temps, écrire pour faire en sorte que ce que l'on vit ne nous échappe pas trop vite. Moi, j'écris pour ça, pour essayer de comprendre et de voilà et de freiner. Et
voilà. Alors justement,
donc, pas de nostalgie, non, certainement pas.
Vous écrivez pour cela. C'est un petit peu la question qui complétait la présentation. Comment en êtes-vous venu à l'écriture? Qu'est-ce qui vous fait écrire et surtout continuer d'écrire, parce que c'est peut-être plus difficile encore de repartir dans l'écriture d'un autre roman.
Ça, c'est une vaste question.
Notamment quand on voit la variété des cadres et des thèmes. Bien sûr, il y a un fil conducteur, vous construisez un univers, mais quand même, d'un livre à l'autre, on est surpris, on est dépaysé.
Alors, d'où vient l'écriture? Déjà, je crois que c'est ma place. J'ai été enseignante pendant longtemps, j'ai essayé de peindre aussi, j'ai peint pendant quelques années. L'écriture, c'est ma place. Quand j'écris, j'ai l'impression que je suis là où je dois être et que je fais la chose pour la seule... Qui est-ce qui disait bon qu'à ça? Voilà, je pense que je ne... Voilà, c'est... Oui, c'est ma place. J'ai toujours aimé ça. C'est... C'est une façon de transformer les événements que vous vivez, qui vous traversent. Voilà, dans La Beauté des Jours, je suis partie sur une performeuse, Marina Abramović, dont on parle beaucoup aujourd'hui parce qu'elle a sorti une biographie. Et il y avait un article aujourd'hui, ce matin, dans Le Figaro. Si vous avez Le Figaro chez vous, regardez la page 31 de mémoire. Il y a une demi-page sur elle et elle explique qui elle est et ce qu'elle fait. Et il y a 3 ans de cela, je l'ai découvert par un article dans Télérama. Et c'est une performeuse, une artiste. Alors certains disent le mot artiste ne lui convient pas parce que ce qu'elle fait, en tout cas, bon, elle se met en scène, elle raconte. Moi, je raconte la vie. Je raconte les émotions, je raconte l'amour, je raconte les peurs avec des mots. Elle le fait avec son corps. Elle se met en scène un peu comme au théâtre, mis à part que au théâtre, quand on a mal, on n'a pas vraiment mal. Quand on saigne pas vraiment. Alors qu'elle, elle raconte sa vie, elle raconte les événements physiquement, elle se met en scène, elle prend énormément de risques. Et cette femme m'a fascinée. J'ai trouvé son travail vraiment, vraiment fatigant, résonnant avec ce que je ressentais, avec ce que j'aimais. Pourquoi ça m'a touchée à ce point-là, je ne saurais pas le dire. Mais en tout cas, elle m'a énormément touchée. Et pendant une année entière, j'ai lu sur cette femme. Je l'ai approchée par tous les moyens, les vidéos, par tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Et j'ai écrit sur elle. Et je pensais au départ faire une biographie sur Marina Abramović, en tout cas une biographie romancée, raconter qui était cette femme, cette petite fille, une enfance complètement écrasée, avec des parents très autoritaires. Et comment, à partir d'une enfance aussi étouffée, on peut rebondir et continuer et réussir sa vie. Aujourd'hui, à 70 ans, c'est quelqu'un qui dit « Je suis allée au bout de ce que je devais faire ». Et si moi j'y arrive, avec toutes les difficultés que j'ai rencontrées, vous pouvez y arriver. Le message de Marina Abramović, c'est ça. Même quand ça ne va pas, même quand vous êtes dans les difficultés, que vous êtes freiné par la vie, que vous êtes empêché, on continue, on ne se résigne pas, on avance. Et sur ce chemin, c'est ça. Et donc je voulais écrire sur elle, la partager. Et puis une fois ce travail fait, ce travail de connaissance avec elle, je me suis rendu compte qu'en fait, il ne fallait pas passer comme ça, il fallait pas raconter Marina Abramović. Pour parler d'elle, il fallait passer par Jeanne, par ce personnage de femme finalement toute simple, toute Jeanne. Elle a 43 ans, elle a une vie très ritualisée, très simple, elle est mariée, elle a 2 filles, un travail, elle vit dans une petite ville de province. Tout est presque banal, tout est presque monotone, tout est ritualisé chez elle. Mais il y a un même magnifique dans la vie de Jeanne, c'est que quand elle se regarde presque dans un miroir, elle se voit elle, mais pas que. Et c'est ce « mais pas que » qui est intéressant. Il y a nous, ce que l'on montre, il y a notre vie quotidienne, et puis il y a cette part de poésie, de fantaisie, d'émerveillement, de différence... Jeanne, et qu'on ne voit pas au premier regard. Quand on commence à lire, on se dit tiens, qui est-elle? Et quand on avance avec elle, c'est ce qu'on découvre.
Voilà, et on s'en rend assez vite compte que justement le personnage principal de La Beauté des Jours, c'est Marina Abramović au fond.
Moi je dirais non. Non, au départ dans la première version, oui, c'était Marina Abramović, mais je trouve que Jeanne est beaucoup plus entière, beaucoup plus complète, beaucoup plus... J'aime profondément... Elle est vivante, Jeanne. Je ne dis pas que Marina Abramović ne l'est pas. Marina Abramović, c'est une artiste, elle nous apprend des choses, parce que... Enfin, on va en parler, on va rentrer dans l'histoire. Oui. Mais Jeanne, c'est celle qu'on peut rencontrer tous les jours. C'est celle que vous pouvez... vous allez vous asseoir à une terrasse de café, vous pouvez la trouver à côté de vous. Et en cela, pour moi... C'est vraiment elle le personnage, avec tout ce qui gravite autour, parce qu'elle a plein de monde, elle a sa famille, elle a plein de monde, elle n'est pas toute seule. Mais pour moi, vraiment, c'est elle.
Mais c'est celle qui a rencontré au lycée d'ailleurs, et ça, il y a un éloge de l'école et des professeurs à travers ce livre, elle a rencontré Marina Abramovitch quand elle était adolescente. Et elle la retrouve avec la chute du cadre et de la photo dans le vestibule. Le courant d'air, c'est un courant d'air en fait, ce roman, qui vient un petit peu bouger les lignes et ouvrir des fenêtres, en somme. Mmh. Et il y a un petit passage que je voudrais tout de suite lire. Qui reprend cette idée, c'est à la page 158. Alors, il s'agit d'un petit jeu, parce que voilà, Jeanne, c'est une personne presque ordinaire, mais quand même, il y a un petit décalage, c'est que vous dites dans la même page, Jeanne était une femme d'habitude, mais c'était aussi quelqu'un qui aimait bousculer l'ordinaire. Oui. Donc, voilà, elle est les deux à la fois. Et donc, parmi ces petits jeux avec les habitudes, il y a, par exemple, le repérage des palindromes, des chiffres, des nombres palindromes, qui sont comme des rendez-vous dans le temps. Alors ça, c'est très amusant. Hein. Et il y a aussi des petites idées comme ça, par exemple, veiller jusqu'à 23 heures pour voir le renard qui passe parfois dans le jardin, ou bien regarder passer les trains, deux trains successivement, en imaginant qu'un jour...
Oui, ça, il faut le dire. Elle habite dans un petit pavillon avec un jardin qui donne sur la gare n'est pas loin, sur la voie ferrée. Et tous les jours, c'est une simple ligne. Hein, tous les jours, donc les mêmes trains qui emportent des gens de la gare vers Lyon. Et donc le soir, les gens reviennent du travail. Et c'est presque toujours les mêmes personnes qu'elle voit dans ces trains. Et Jeanne s'imagine des histoires. Elle les regarde. Elle ne prend jamais ces trains. Elle ne les prend pas. Elle les regarde passer. Et dans le premier train, celui de 18h01, il y a un monsieur qu'elle imagine professeur. Et dans le train suivant, il y a une dame. Sensiblement du même âge, sensiblement de la même élégance. Enfin, forcément, dans son esprit de Jeanne, peut-être dans le nôtre, ça ne fonctionnerait pas comme ça, mais elle imagine que finalement, ces deux-là sont faits pour se rencontrer. Enfin, voilà, il faut avancer dans l'histoire. Mmh. Et ça, il y a une légende que j'aime beaucoup. On raconte qu'au début, au départ, dans la création de l'homme et de la femme, des humains, l'homme et la femme ne faisaient qu'un. Ils étaient soudés, intimement liés, et ils étaient un être parfait. Et un jour, ils ont désobéi, et Zeus, pour les punir de cette désobéissance, les a séparés. Et depuis, l'homme et la femme sont séparés et passent leur vie entière, enfin, peut-être pas leur vie entière, mais en tout cas, se cherchent. N'ont qu'une aspiration, qu'un rêve, c'est retrouver l'autre, celui qui va compléter. Et je trouve cette idée très, très belle. Et c'est vrai que des grandes histoires d'amour, des histoires qui relisent comme ça, il n'y en a pas tant que ça. Et Marina Abramovitch, je reviens à elle, était une passionnée, une femme qui aimait, quand elle aimait entièrement. Et pendant 17 ans de sa vie, elle a travaillé avec Ulay. Ulay, son homme, son amant, sans doute celui qu'elle a le plus aimé, même si elle a fini par le détester après. Ce qui est intéressant, c'est ça aussi, le chemin de l'amour. Et elle a beaucoup parlé de ça dans son travail. On abordera peut-être un petit peu tout à l'heure.
Et de la muraille de Chine.
La muraille de Chine, il faudra qu'on en parle. Voilà. On peut ou pas?
Mais alors, non. Est-ce que je peux juste terminer ça? Oui. Donc, parmi les petits jeux de Jeanne, un jour, elle vit avec son mari, Rémi, et ses deux filles jumelles, enfin, qui ont quitté la maison, mais qui reviennent quand même assez régulièrement, Chloé et Elsa. Et un jour, elle décide de changer la place à table. Et alors, ça fait presque... Enfin, ça fait un gros bouleversement, alors que c'est un tout petit détail. Et donc ça ne plaît pas du tout à ses filles qui sont visiblement habituées à une vie d'habitude, peut-être elles aussi déjà, ou en tout cas qui veulent des règles. Le mari, lui, ne s'en formalise pas plus que ça. Et donc au petit déjeuner du lendemain, Jeanne a volontairement pris la place de Chloé. Elsa a demandé s'il y avait un sens, quelque chose à comprendre qui leur échappait. Jeanne a dit que non, c'était juste un peu de vent dans le quotidien. Et alors cette expression, juste un peu de vent dans le quotidien, je la trouve vraiment très belle. Et je trouve qu'elle va au-delà de l'anecdote de ce passage et qu'elle s'applique à beaucoup de moments du roman, peut-être même à l'ensemble du roman, un peu de vent dans le quotidien.
C'est comme quand elle suit, oui. C'est exactement la définition de Jeanne. Elle se met du vent dans le quotidien. Elle suit, par exemple, elle travaille à la poste, c'est pas passionnant, je veux dire, bon, voilà, elle reçoit les gens tous les jours qui viennent à elle, elle donne des timbres, des enveloppes, etc. C'est vrai. Et sur sa pause de midi, elle s'amuse à suivre des gens, un homme, une femme, un enfant, un chien, un vieillard, peu importe. Elle se donne des règles, c'est-à-dire elle ne suit pas deux fois de suite la même personne, elle ne doit pas parler à la personne. Elle se met comme ça des jeux, des règles de jeu. Et voilà, c'est quand les gens à la poste viennent vers elle pour, bah, toujours pareil, pour embellir, pour faire en sorte que nos journées, qui peuvent paraître parfois tellement plates, tellement monotones, prennent un peu d'épaisseur et de lumière, les gens viennent s'asseoir, enfin, viennent devant elle à son guichet, et elle ne les regarde pas tout de suite comme on le ferait tous. Bon, qu'est-ce que vous voulez, quoi ? Non, non. Elle regarde d'abord les mains, elle s'attarde sur les mains, et après, elle lève les yeux, elle regarde le visage. Et au bout d'un moment, à force de faire ça, elle se dit... bon, c'est une petite ville, donc forcément les gens qui viennent vers elle, elle les connaît, c'est des habitués. Elle se dit, mais il faudrait, à partir des mains qui sont là, essayer de deviner le visage, qui est dessus, à qui elles appartiennent. Et donc voilà, elle joue avec, comme ça, avec tout. Et un jour, en jouant, en suivant, elle retrouve, en suivant quelqu'un dans la rue, elle retrouve... elle retrouve Martin, oui. On en parlera peut-être tout à l'heure, parce que là, Martin, il est important dans sa vie.
Il est important, il est spécial, oui. Et il nous fait renouer aussi avec l'art, parce que bon, c'est très beau aussi, Boltanski, le voyage qu'il fait au Japon, et du coup, le rendez-vous et les battements de cœur qui sont enregistrés dans cette cabane. Enfin, on est là encore dans ce que vous savez très, très bien faire, pratiquement dans chaque ouvrage, ce lien entre le quotidien et l'art, et la manière dont l'art... vient faire respirer le quotidien, en somme, et aussi la manière dont les gens qui en apparence semblent les plus éloignés de l'art ou du milieu artistique ont aussi droit à l'art, et avec un peu d'imagination on arrive justement à se dire que, après tout, eux aussi ont ce genre de rêve, ont ce genre de lecture, et pourquoi pas.
Le problème, c'est l'accès.
Voilà.
L'accès à l'art, d'où l'école, d'où les rencontres, de savoir saisir. L'art, c'est quelque chose qui n'est pas... Lire, écrire, compter, c'est donné. C'est donné très vite et c'est naturellement pris par tout le monde. L'art, ça reste quelque chose de mystérieux. Rentrer dans un musée, c'est pas quelque chose de naturel. Et elle, je pense que Jeanne, elle est... On revient au professeur qui, quand elle était adolescente, elle avait un professeur d'art qui était passionné par Marina Abramovitch et qui parlait de Marina Abramovitch régulièrement. Il expliquait sa vie, ce qu'elle faisait, etc. Et Jeanne était poreuse à ça. Elle le comprenait. C'est pas une intellectuelle, Jeanne. Elle a pas beaucoup lu. Mais c'est une sensible. Elle a tout de suite compris à 15 ans, parce qu'elle vient d'un milieu... de taiseux, de silencieux, où il n'y a pas beaucoup justement de culture, elle a compris le langage de Marina Abramovitch, ce langage de corps, elle l'a saisi. Et ça, c'est... Enfin, je crois que l'art, c'est vrai que j'en parle, dans Seul Venise, je parle aussi de Zoran Muzic, c'est important, les artistes, ils embellissent nos vies, enfin, ce soit les écrivains, les musiciens, tous ces gens-là, ils embellissent nos vies. Je crois qu'on. Enfin, moi, en tant qu'écrivain, on porte peut-être tous en nous l'embryonnaire, je ne sais pas si on peut dire l'embryonnaire, de quelqu'un de plus grand, qui a fait ce qu'on aimerait faire, qui a eu la vie, quand je pense à ça, je pense à Duras. Duras, cette écriture. Voilà, c'est ces grands qui ont fait, qui ont la vie qu'on aurait aimé avoir. Et Jeanne, je la sens un peu comme ça. Elle a en elle l'embryon de ce qu'est Marina Abramovitch. Elle aurait pu être. Et bon, elle ne l'a pas été parce que...
Elle ne l'a pas été, mais elle la trouve inspirante.
Mais elle la trouve inspirante. Voilà. Elle la trouve inspirante.
Comme chacun d'entre nous peut trouver inspirant tel ou tel artiste, que ce soit un écrivain ou un musicien.
Et Marina Abramovitch lui permet d'oser.
Voilà.
Lui permet d'oser parce que pendant ce temps de pause où c'est, bon, les filles sont parties, donc elle a un temps de vacances, j'entends vacances, voilà, de temps libre où elle peut de nouveau réfléchir sur... Elle est au milieu de sa, enfin, milieu de sa vie, je ne sais pas, mais en tout cas, un peu plus de 40 ans, qu'est-ce qu'on fait du temps qui reste. Il reste encore beaucoup de temps. Mais enfin, il ne reste pas toute une vie. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est important à un moment de s'arrêter. Jeanne, elle le fait, ça. On s'arrête. Voilà. Et qu'est-ce que je vais faire du temps qui me reste ? Comment je vais ? C'est les choix. C'est...
Alors, quand on choisit, on renonce, évidemment, à ce qu'on n'a pas choisi. Et là aussi, il y a une... Enfin, je crois, dans plusieurs de vos livres, et en particulier dans La beauté des jours dont nous parlons aujourd'hui, il y a cette conscience des potentialités multiples dans une vie, mais de l'unicité de la vie. Et donc, il y a une espèce de danse presque au fil des pages entre les deux. Et là aussi il y a un très joli passage qui évoque cette multiplicité des possibles mais cette unicité de la vie. C'est plutôt vers la fin, à la page 328. Une vie ne suffit pas. Jeanne aurait voulu en avoir plusieurs pour vivre tous les choix qu'elle n'aura pas fait, toutes les directions qu'elle n'aura pas prises. Les autres vies permettent peut-être cela, comme les chats. Les chats ont 7 vies et au terme de la 7e, ils emportent leur maître avec eux. Alors, bon, il est question des chats juste avant aussi. Hein, et on voit bien comment Jeanne joue avec ses vies possibles, mais sans, encore une fois, sans regret, simplement parce que c'est un jeu, en somme, qui ouvre plusieurs facettes. Et elle joue aussi entre ce qu'elle appelle sa zone de confort, c'est-à-dire à l'intérieur de son territoire, son jardin, sa ville, son travail, et puis ce qui passe et qui peut l'emporter, en particulier Martin.
Ah ben Martin, c'est l'amour de ses 15 ans qu'elle croise comme ça 20 ans plus tard. Par hasard, dans la ville, elle le suit, elle suit un homme, et puis elle le suit à nouveau le lendemain, et c'est lui. Après, oui, c'est le... Oui, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que Jeanne peut faire de cette nouvelle rencontre ? Est-ce qu'on recommence ? Est-ce qu'on peut recommencer ? Est-ce qu'on peut revenir ? Est-ce qu'on répare ce qui n'a pas été fait ? Est-ce que ces choses sont possibles ? C'est un peu tout le sujet de ce moment-là. Jeanne a des attachements, elle a des attachements... puissants, très puissants, qui sont sa géographie, cet endroit où elle est née, qui sont sa famille, qui sont son mari. Tout ça, c'est très fort. Ça fait sa force, mais ça fait aussi sa faiblesse. C'est compliqué, ça, à la fois en avoir une force, parce que, comme vous dites, c'est la zone de confort, ce lieu où elle est très bien. Mais après, il y a un moment où, voilà, là, il y a une porte qui s'ouvre pour elle. La rencontre avec Martin, c'est qu'est-ce que je fais maintenant ? Est-ce que je sors de ma zone de confort ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je reste ? Et comment ne pas blesser ? Comment ne pas faire de peine ? On est encore là aussi à la relation à l'autre, à la relation à... Est-ce que je peux abandonner ? Est-ce que je peux... Voilà, la fidélité à soi, c'est compliqué aussi. Jeanne est fidèle aux autres. Après... être fidèle à soi, c'est autre chose, à ce que l'on est vraiment, à ce qu'elle est vraiment, à ce qu'elle ressent vraiment. Où est sa juste place ? J'ai des lectrices qui viennent et qui me disent « Ah, oh, la fin est merveilleuse, la fin, mais alors il fallait vraiment que ça finisse. » Enfin, j'entends la fin, pas tout à fait la fin, parce qu'il y a quand même les deux pages, voilà. Mais la fin, en tout cas, avec Martin, il fallait vraiment que ça se passe comme ça. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui viennent et puis qui disent « Ah non, qu'elle fasse l'autre choix. » Qu'est-ce qu'on fait de nos choix ? Le tout, c'est voilà, pas avoir de regrets, mais bon, non, elle n'en a pas, elle fait le choix qui lui convient.
Est-ce que le sentiment qu'on a qu'au début du roman, justement, Jeanne termine une phase où elle s'est oubliée elle-même au profit de ses enfants, etc., peut-être aussi d'une routine, et puis que là, c'est comme un réveil, finalement, comme un nouveau regard sur elle-même. Alors, cette acuité du regard, on voit aussi, on en a parlé, qu'elle l'a sur toute chose, enfin, elle a un regard presque poétique sur tout ce qui l'entoure, les choses les plus modestes, les plus quotidiennes. Elle arrive à s'étonner ou même à s'émerveiller finalement de chaque jour et de ce qu'elle voit. Et en même temps, on a l'impression que le roman démarre parce qu'elle prend conscience qu'elle s'est oubliée et que là, elle va se retrouver.
Ben, c'est le moment de déséquilibre. C'est ce qui est intéressant dans la vie. Enfin, presque tous mes romans, Seule Venise, commence, j'en parle parce qu'il est là, donc forcément, tac, dans la mémoire. Ouais. Le début de Seule Venise, c'est une femme à Lyon, je crois. Son mec vient de la quitter. Quand je dis son mec, c'est parce que c'était vraiment son mec. Voilà. Et quand je le dis comme ça, vous comprenez ce que ça... Voilà, c'est vraiment une relation très, très forte. Tellement forte que ça ne pouvait pas durer non plus. Donc, voilà, elle se retrouve seule. Il faut faire quelque chose, trouver une solution, je pars. Ce déséquilibre est intéressant. Quand on est dans le... Moi, j'écris... les moments où j'écris le mieux, c'est quand je ne vais pas. Quand justement, ça... Quand je vais, que je suis heureuse, que tout le monde est gentil avec moi, que... là où j'arrive à faire ressortir vraiment ce que je sens là et qui doit se mettre à jour avec l'écriture, c'est quand je m'énerve, c'est quand ça va pas, c'est quand je suis en colère ou c'est quand je souffre ou c'est quand on m'a fait mal. Et c'est là, parce que vous êtes acculé. Là, elle, ses filles sont parties, pas très loin. Elle les voit, elles sont à Lyon, quelques kilomètres, elles reviennent. Mais n'empêche que, bon, elles s'en vont. Son mari, Rémi, il est adorable. Elle a un mari très attachant, très aimant, très attentif. Et voilà, il ne la fait pas... Il ne la fait pas rêver. Il ne la fait pas... Voilà, c'est... Et ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça fait quand on bascule? Alors, tant qu'on est pris dans un quotidien, qu'on est là, il faut faire à manger, il faut s'occuper, il faut travailler à la poste, il faut aller voir les parents le dimanche, il faut s'occuper de la sœur, il faut s'occuper de la nièce, elle en est là. Bon, on n'a pas le temps de réfléchir. Mais le jour où il y a un peu de temps qui se libère, on peut réfléchir. Et là, c'est intéressant. Moi, Jeanne, elle m'a intéressée à partir du moment où le cadre est tombé, elle est allée là-bas. Alors qu'elle avait tout bien nettoyé, tout, il y avait sur le sol les éclats de verre. Et ce cadre qui était là depuis 20 ans, qu'elle n'avait pas regardé, ou regardé comme s'il avait été mêlé, voilà, là on a des photos, c'est pareil. On peut très bien imaginer les photos des filles partout, 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 de Rémi, du mariage, des enfants. Et au milieu, dans un cadre petit, qu'elle n'avait jamais abandonné, cette photo l'avait suivie partout, dans sa chambre de gamine, d'adolescente, et puis après dans le mariage. Le cadre tombe, elle la regarde, et ça déclenche la mémoire, ça déclenche voilà, les émotions, le passé. Puis quelque part, on met aussi le doigt sur, comment dire, sur les ambitions refoulées, sur cette possibilité de différence qu'on a quand on est adolescent. Combien quand on est adolescent, on a envie d'écrire, on a envie de peindre, on a envie de voyager, on a envie de faire du théâtre. On est bouillonnant de ce désir-là. Puis après, la vie vient et estompe et efface et étouffe. Et parfois, ça ne ressort pas, ou alors vaguement sur le tard. Ah, j'aurais bien aimé. Là, voilà. Elle, ça ressurgit, elle laisse remonter parce qu'elle a le temps. C'est un moment propice pour elle.
Oui, et en même temps, elle n'a jamais perdu de vue sa manière justement d'être adolescente, cette vie poétique, comme dirait Morin, elle l'a gardée parce qu'il y a plein de petits détails où on voit qu'elle a cette vie poétique. Elle arrive à la remettre dans son quotidien. Ça aussi, c'est très beau. C'est peut-être même un engagement parce que vous montrez bien comment, même dans des milieux modestes, même dans des vies ordinaires, cette vie poétique est quand même, l'accomplissement entier de la vie est possible. Donc ça, c'est une idée que vous défendez d'ailleurs dans plusieurs de vos livres et qui ressemble quand même à un engagement. Presque politique.
On peut pas se... Politique, je sais pas, mais en tout cas intime en ce qui me concerne, on peut pas se contenter d'être un estomac. Et on a bien besoin... ce que vous me dites me fait tout de suite penser à Georges Semprin, qui dans l'écriture ou la vie raconte admirablement comment dans les camps de déportation, il s'est sauvé de la folie parce qu'avec un petit groupe, 5-6 personnes, ils ont retrouvé dans leur mémoire, ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient rien, mais ils avaient leur mémoire, ce formidable outil, et à plusieurs, ils ont retrouvé les vers d'un certain poème, jusqu'à les reconstituer parfaitement, ils ont retracé les chapitres de certains livres, en disant, mais qu'est-ce qui se passait après, et après, et on n'était pas, ils n'étaient pas d'accord, donc Et ça les a sauvés de la folie. Il disait, Georges Semprin, qu'il avait réussi à, à rentrer en contact, le mot il n'est pas là, il fait un petit peu, en tout cas avec un homme mourant, il avait réussi à nouer une relation simplement parce qu'il lui avait simplement, j'enlève le simplement, parce qu'il lui avait récité un poème de Rimbaud. Et cet homme mourant, je l'avais vu à Montpellier, Georges Semprin, il avait raconté ça, il en avait les larmes aux yeux. Cet homme qui était là, il a dû mourir, je me rappelle plus, enfin très peu de temps après, mais le temps de ce poème, les yeux de l'homme s'étaient rouverts et s'étaient mis à briller. Donc l'art, c'est important, on peut pas, et il doit être partout. Moi, j'ai été institutrice pendant très très longtemps, j'aimais énormément, là j'ai arrêté parce que je fais quelque chose qui me plaît énormément, à savoir écrire et parler un petit peu de ce que je fais. Mais j'aimais beaucoup ça, essayer avec mes élèves, surtout les plus défavorisés, surtout ceux qui n'avaient pas ça à la maison, de leur donner cette puissance. Vous êtes plus fort si vous avez ça. Et ça, c'est d'une grande injustice. Grande injustice. Il y a les beaux, il y a ceux qui ne le sont pas, mais il y a aussi ceux qui ont l'accès et il y a ceux qui n'ont pas l'accès. Donc il faut se battre pour que tout le monde ait l'accès à cette poésie dont vous parlez.
Oui, voilà, et c'est un véritable engagement que vous nous faites vivre en tant que lecteur dans vos livres, sans grand discours, voilà, mais c'est à travers les personnages, à travers l'imagination que l'on a de cette vie et de ce que sous le côté lisse, sous la surface un peu lisse, un peu terne de leur vie, on peut justement restituer, hein, qui n'est pas forcément dit parce que ce sont des taiseux et parce que bon, on passe les uns à côté des autres sans trop s'intéresser à nos secrets respectifs, mais là tout d'un coup vous nous donnez cette faculté d'imaginer que sous cette surface lisse il y a ce bouillonnement, cette curiosité, ce goût de l'art, ce besoin vital pour l'art. Vous écrivez quelque part aussi que l'art nous sauve, et à un moment Jeanne dit: je veux apprendre une chose par jour. Là, cette résolution, c'est à peu près au milieu du roman. Voilà, donc, quand vous disiez, elle finit par étouffer dans sa zone de confort et elle a besoin d'avancer, en somme. D'avancer, et avancer, c'est apprendre.
Avancer, c'est apprendre, oui. Oui. Mais dans cette part de poésie, il y a un personnage dont je voudrais parler qui n'est pas... On parle de l'art, on parle de littérature, mais le personnage de la petite nièce de Jeanne, Zoé, la petite Zoé, qui elle n'est pas une petite fille comme tout le monde, qui est une petite fille qui a des difficultés à comprendre, qui n'est pas aussi intelligente, adaptée au monde, oui, au monde tel qu'on voudrait.
Tel qu'il est, de consommateur et de producteur.
Voilà, exactement, acquis, voilà. Mais qui a en elle un regard sur ce qui l'entoure, qui nous apprend, enfin qui moi m'a énormément touchée. C'est un beau personnage de petite fille et qui nous apprend, je crois. À un moment, en pensant à Zoé, il y a un moment, elle est dans le pré derrière chez elle, elle est contre un arbre, il y a un tronc, contre ce tronc d'arbre, elle a les mains plaquées contre le tronc et elle regarde. Elle lève les yeux, elle regarde le ciel à travers les branches au-dessus de sa tête. Et sa tante, Jeanne, arrive et fait ce que nous, adultes, sans doute, on ferait tous. Elle lui dit: mais est-ce que tu veux que je t'aide à monter dans l'arbre? Et Zoé répond: non, si je suis dans l'arbre, je ne verrai plus l'arbre. Et c'est un monde qui n'est pas... Le monde de Jeanne, c'est un monde qui n'a pas lu énormément, qui n'a pas énormément de connaissances, oui, livresques, mais qui a une connaissance charnelle du monde qui l'entoure, qui a une connaissance sensible, qui a une connaissance animale presque, qui moi m'interpelle.
Et c'est donc très intéressant d'être profondément, enfin vous dites quelquefois que vous grattez jusqu'à l'os, là on est plutôt infusé finalement dans le personnage de Jeanne et on arrive à voir le monde avec son regard. Est-ce que c'est ce qui vous a guidé pour le choix de la couverture? Parce qu'on voit bien là que tout est une question de regard et de renouvellement du regard.
Le choix de la couverture, oui. Non, c'est pas du tout. Alors, moi qui ai travaillé. Voilà, c'est Actes Sud qui a travaillé une fois le texte fini. Ils ont cherché quelle couverture offrir à ce texte. Et un jour, on me l'a envoyé, on m'a dit on a trouvé cette couverture. Et je me souviens très, très, très bien, parce que c'est important, une couverture. C'est très important. Accroche, hein. Oui, alors ça accroche. Vous parlez
marketing.
moi, j'en suis pas encore là. Elle me fait réagir. Quand vous recevez la couverture, vous êtes encore. Le livre n'est pas encore fait, publié. Il n'existe pas encore en papier. Donc, vous êtes encore complètement dans votre histoire, dans l'émotion de l'écriture. Je me souviens, donc je l'avais reçu sur l'écran de l'ordinateur, mais l'émotion, tout de suite j'ai su que cette couverture était celle qu'il fallait au texte, que c'était exactement ça. Et voilà, je refais le geste de tout à l'heure, c'est comme ça, ça lui va parfaitement bien, ce regard bleu qui fixe, le jeu avec la main sur... elle est chaude, elle est lumineuse, elle fait du bien, on la regarde. Donc voilà, ça, c'est des moments, quand la couverture arrive, toujours très,
alors, très particulier. On a aussi l'impression d'un petit clin d'œil à une part de ciel, parce qu'il y a la couleur rouge, il y a les oranges.
Elle est très sensible, très sensuelle, avec oui, la aussi. Neige et les gants rouges. Voilà. Et le manteau, elle est belle. Hein.
Oui.
Ouais, c'est vrai.
Oui, c'est la couleur de la vie aussi.
Oui, la chaleur peut-être.
La chaleur, la vie. L'incendie.
Mais c'est vrai qu'elle est, une part de ciel, elle est très très belle.
Tout
très
à
très
fait.
Belle.
Ouais.
On la touche. Mais c'est vrai. Ouais.
Alors on a parlé de, enfin vous avez parlé de Marguerite Duras tout à l'heure brièvement. Est-ce qu'il y a des influences pour l'écriture de vos livres? Moi j'ai pensé aussi par certains aspects à Annie Ernaux ou bien à Raymond Carver aussi par les aspects très modestes des petits détails de la vie, des petites scènes qui en apparence n'ont pas forcément de résonance mais qui en profondeur en ont une.
Carver c'est quelqu'un que j'aime. Dont j'aime énormément, énormément, énormément l'écriture et le travail. C'est quelqu'un, Carver, qui, en peu de... Alors, ses nouvelles, comment en 3-4 pages, il arrive à vous parliez tout à l'heure d'atmosphère, on est dedans, mais alors, il vous plaque dans une histoire. Il est d'une efficacité, d'une justesse dans la langue. Je l'ai lu, relu, c'est quelqu'un qui m'a énormément apporté... voilà, il est juste, il est parfaitement juste, Carver. Ce que j'aime beaucoup dans la petite anecdote dans l'histoire, c'est qu'il écrivait des nouvelles, non pas parce qu'il aimait écrire des nouvelles, mais parce que il était à l'époque marié et il avait des gamins. Et il vivait dans un tout petit appartement parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent. Il faisait des petits boulots pour gagner sa vie. Il était vendeur de tulipes. Il a fait plein de choses, mais comme il ne pouvait pas écrire dans l'appartement. Avec les enfants et le bruit, il descendait dans sa voiture qui était en bas et il écrivait dans sa voiture. Et donc c'était très compliqué de s'enfoncer dans l'écriture d'un roman. Donc c'est pour ça que Carver, au début, était nouvelliste. C'est intéressant ça aussi de voir l'impact de notre vie et de nos conditions sur l'épaisseur de nos romans. Mais Carver, oui, très très important. Duras, j'aime énormément. Duras, il y a une voix.
Une musique, mais...
Voilà, vous l'entendez, vous... Il n'y a pas... Alors après, bien sûr que les lectures nous influencent, nous influencent. Voilà, je les ai tellement lues que peut-être, oui, ça doit quand même impacter.
Et vous-même, est-ce que vous testez la musique de vos phrases, que vous lisez à voix haute, ce que vous avez écrit? Est-ce que c'est une méthode de...
Quand j'ai terminé un roman, oui, je le lis à haute voix dans le bureau, toute seule, avec le chat sur le rebord de la fenêtre, qui est le premier, j'allais dire lecteur, non, écouteur, écoutant, et récepteur, le premier récepteur. Ouais, je relis tous les chapitres à haute voix. Il y a deux choses qui m'importe énormément quand je termine, c'est le blanc qu'on laisse, c'est-à-dire les chapitres parfois très courts.
Oui.
C'est génial. Oui. Eh bien, c'est un travail que j'aime énormément faire parce qu'au début tout est à la suite, tout est brassé, tout est... Je vous montrerai les premiers brouillons de ce texte. Oh, vous partiriez en courant tellement c'est mauvais. Il y a le travail, le travail c'est très très important. Il faut énormément travailler quand on écrit, comme en toute chose. Mais ce blanc, il est important. Quand je rends un livre, un roman, ça c'est important de dire là je coupe et je laisse du blanc. Et c'est important d'avoir un éditeur qui vous laisse mettre du blanc. Parce que c'est aussi des livres qui sont plus gros, c'est donc des coups. Mais ça, c'est vrai, c'est des respirations, le regard se pose. Et après, il y a la lecture à haute voix. Alors, je vais vous confier un secret. Quand vous lisez à haute voix, vous voyez très vite tout ce qui ne va pas. Ça sonne. Si vous êtes allé trop vite, si vous êtes... Ça. Et début de l'histoire, donc j'écris, je lis. Souvent, on me demande de lire à haute voix le début du roman. Et je lis, et il y a trois phrases que je ne supporte pas et que malheureusement, je ne peux pas passer dans toutes les librairies de France pour les barrer. Mais j'aimerais pouvoir les barrer parce que je trouve qu'elles n'ont rien à faire ici et que j'aurais dû. En fait, je pense qu'on est trop impatient quand on publie un roman. Il faudrait terminer, en avoir un petit peu comme ça, fait presque neuf, l'oublier deux, trois mois, et après le relire. Et là, on avancerait encore vers un texte encore plus, je pense pas parfait, parce que le mot est fort, mais en tout cas, on irait au bout. Mais voilà, quand c'est fini, on a envie, on rend, et puis voilà, vite. Et là, ces trois phrases qui sont ici, je peux vous les dire, elle a étiré ses jambes au soleil, le 18h01 s'était arrêté, il était reparti, elle a attendu le suivant. Eh bien, quand on me demande de lire le début, je ne les lis jamais. Je me fais ce plaisir-là. Et je ne les lis pas, et je suis heureuse. Voilà, il y a trois phrases qui ne sont pas forcément gênantes pour les lecteurs, je pense, mais pour moi, en tant qu'auteur, je me dis, celle-ci, j'aurais dû... Et la fin du chapitre aurait été plus belle. Voilà, il faut savoir couper. On ne coupe jamais assez. Il y a beaucoup... Enfin, voilà, ça, c'est trois. Tout ça pour parler du travail
Merci
d'écriture.
Merci de nous avoir livré ces secrets d'écriture. C'est très intéressant d'entrer dans l'actualité.
Il y a un peintre qui... qui est-ce ? C'est peut-être Monet. Non, c'est pas Monet. Quoique. Qui allait au musée du Louvre de voir ses toiles. Et il avait toujours sur lui une toute petite palette de peinture. Comme ça. Et vous avez compris, hein, dès que le gardien avait le dos tourné, il s'approchait de ses toiles et il rectifiait un tout petit peu, une petite touche et tout. Nous, voilà, on voudrait faire ça, mais je crois que ce n'est pas possible d'une version à l'autre, d'une réimpression. Quoi, il faudrait que je pose la question. D'une réimpression à l'autre. Ah, mon éditrice m'a fait oui avec la tête. Oui. On peut faire d'une réimpression à l'autre, supprimer des choses.
On peut remercier aussi Actes Sud, à qui vous êtes fidèle, puisque le Rouergue et Actes Sud, c'est la même famille. Oui. Donc vous avez publié au Rouergue jusqu'au Déferlante, oui. Et puis depuis les Déferlantes chez Actes
Sud. Un glissement,
Sud.
Oui.
Voilà, mais c'est un glissement de la vague.
Oui.
qui est tout à fait dans la fidélité.
Merci.
Merci.